Quand on parle d'innovation, on peut les classer en deux grandes familles. Les innovations incrémentales, un joli nom pour parler d'amélioration, et les innovations de rupture, autrement appelées les disruptions. Et au sein de ces deux grandes familles, on retrouve en général six types d'innovations, dont l'innovation technologique, l'innovation en matière de produits, l'innovation en matière de services, l'innovation des procédés d'organisation, l'innovation des modèles d'affaires ou encore l'innovation sociale. Et pour innover, on s'y prend comment ? On s'entoure de collaborateurs très créatifs pour avoir des idées, on s'entoure de collaborateurs très pointus en gestion de grands programmes pour être sûr de pouvoir avoir une innovation robuste à l'épreuve de millions d'utilisateurs, on s'entoure de profils ayant la fibre entrepreneuriale, on s'entoure d'un mix savamment dosé de ces différents profils. Et quand on entreprend, on démarre tout petit en mode proof of concept, le fameux mode prototypage, ou en mode MVP, tu sais, le minimum viable product, le juste nécessaire pour permettre à des premiers utilisateurs d'éprouver l'innovation et de faire des retours sur ce qu'il faut améliorer. On s'y prend comment ? Et pour trouver l'idée, au tout début, ou pour sortir de l'ornière si le projet bat un peu de l'aile, ou pour faire face au premier vent contraire, on fait quoi ? On appelle des super-héros ? Et si on appelait des agitateurs, des femmes et des hommes qui vont nous aider à casser la baraque en nous aidant à penser et agir autrement et en nous aidant à mieux entreprendre. Et si. Pour bien comprendre ce que ça change pour de vrai d'entreprendre et d'innover avec de vrais agitateurs, l'invité de cet épisode du podcast est Aurélie Filigère, fondatrice de InnovaFlow, le collectif d'agitateurs agiles au service des projets innovants. Bonjour Aurélie.
Bonjour PPC.
Bienvenue dans ce podcast matinal. Merci de t'être rendu disponible. On attaque avec le pain point. C'est quoi le gros problème, le problème majeur que tu as observé avec les projets d'innovation ou d'entrepreneuriat ?
Écoute, il y a un certain nombre de problèmes différents et je pense que chaque porteur de projet et entrepreneur le sait bien. La première grosse difficulté, je trouve, c'est de garder le cap. En fait, on parle souvent d'ascenseur émotionnel dans ces grandes aventures entrepreneuriales. Il existe quand même un certain nombre de structures d'accompagnement, des incubateurs, un écosystème qui est devenu très riche, et tant mieux. La difficulté, c'est dans tout ça, comment garder son cap, se poser une vision, éviter de perdre dans les différents méandres de dispositifs d'accompagnement et rester focus sur sa vision, sa proposition de valeur, rester voilà, aligné avec ce projet et surtout le rendre rentable.
Et c'est donc ça qui t'a donné l'idée de monter ce collectif d'agitateurs agiles ?
Il y a eu plusieurs on va dire raisons. La première, c'est celle-ci. J'ai la chance de faire partie et d'être active dans l'écosystème entrepreneurial du territoire. Je me suis vite rendu compte que ces fameux entrepreneurs étaient un petit peu ballottés parfois et même ceux qui ont cette vision, on va dire, marché ou d'anciens marketeurs avaient parfois du mal à garder ce cap, ce fameux cap et avoir cet effet miroir. Donc ça a été le premier, à dire la première réalisation. Et puis il se trouve que moi j'ai travaillé presque 15 ans des projets d'innovation en entreprise. J'ai toujours travaillé en mode collaboratif, en équipe, et clairement, je trouvais que dans cet écosystème, il manquait cet aspect, et puis à moi, il me manquait égoïstement cet aspect collaboratif pour amener un accompagnement qui soit pensé pour être pertinent, mais à plusieurs.
Qu'est-ce qui font de particulier ces agitateurs agiles que d'autres consultants ou d'autres super-héros font ? Ils font quoi de différent ?
On va être assez humble quand même dans l'approche, mais c'est vrai que c'est donner ce nom d'agitateur parce qu'on aime bien l'idée d'être des troublions. C'est-à-dire que j'imagine qu'on ne peut pas être les seuls à avoir les bonnes idées, des bons modes d'accompagnement. Par contre, ce qui fait la différence et ce qui est par nature que notre structure, en fait, notre organisation, c'est le fait justement d'agiter les, c'est-à-dire les premières idées, les projets, d'agiter les porteurs de projets, les faire grandir dans leur posture d'entrepreneur. Ce qu'on aime bien dire, c'est qu'on les aide à pêcher, on le fait pas à leur place. Donc déjà, dans un premier temps, c'est, je dirais déjà, cette posture qu'on leur apporte. Le fait aussi de travailler main dans la main avec eux, en fait, notre principe d'accompagnement, donc c'est un parcours 8 étapes, donne cette fameuse vision dont je parlais tout à l'heure et ce cadre qui est franchement apprécié, permet de suivre, on va dire, un fil conducteur, un fil rouge. Et à l'intérieur de ça, on vient, enfin de ce parcours, on vient complètement personnaliser et adapter notre approche par des outils adaptés ou différents et par des compétences et des sensibilités complètement complémentaires, parfois différentes, parfois proches, mais qui nous permet de réfléchir mieux, parce que c'est bien que deux cerveaux valent mieux qu'un, et surtout 1 + 1 égale plus que 2. Voilà, c'est cette approche agile vraiment qui nous caractérise, tant dans le parcours d'accompagnement pour les entrepreneurs que sur des modules complètement personnalisés suivant la problématique. Donc on adapte notre intervention à la problématique et pas l'inverse.
Ben, tu nous détailleras un tout petit peu les méthodes que vous utilisez dans quelques instants, mais je prends la première question de Vanessa. Elle te dit InnovaFlow, c'est un incubateur, c'est une pépinière. Comment tu qualifies exactement InnovaFlow ?
On se dit plutôt incubateur nomade. Quand je parlais tout à l'heure d'intelligence collective, si tu veux, on sait qu'il y a à peu près 400 incubateurs en France, dont des très gros, particulièrement en Ile-de-France. Je veux dire, avec un peu d'humilité en Haute-Savoie, voilà, moi j'ai préféré amener cette organisation, mais en complémentarité d'un écosystème existant. L'idée, c'est pas de se substituer à des structures qui existent, qui peuvent apporter de l'hébergement, qui peuvent aborder des sources de financement. Par contre, on est ultra connecté avec tout cet écosystème pour pouvoir proposer, on va dire, une vision plus claire et puis montrer un écosystème un petit peu plus simplifié, et on s'inscrit dans cet écosystème, on vient pas remplacer ou amener quelque chose d'assez similaire. Ça, c'est vraiment l'approche. Donc, d'où le nom d'incubateur nomade. Clairement, on va se déplacer, on est agile dans la méthode.
Bonne question de Laura. Elle te demande, quels sont les points communs des entrepreneurs et entrepreneureux qui font appel à InnovaFlow, qui peuvent le plus en bénéficier?
Pour le moment, avec le nombreux porteurs de projets qu'on a pu avoir, il y a deux profils qui se dégagent principalement. Alors, il y a, je dirais déjà un petit peu par nature et peut-être par localisation ou géographie. Étant basé à Annecy, on a quand même une activité sport outdoor assez importante. Donc, je dirais qu'on a par nature un petit peu ce profil-là de porteur de projet sur un secteur un petit peu spécifique, mais pas que, évidemment, ce secteur-là qu'on peut représenter ou qu'on peut accompagner. Après, en termes de profil vraiment de porteur de projet, il y a soit des personnes qui sont un peu en reconversion, qui du coup, comme beaucoup d'entre nous, ont repensé leur vie professionnelle et partent sur le grand chemin de la grande aventure entrepreneuriale avec une idée, un concept, des compétences techniques, mais absolument pas l'approche marché, marketing et encore moins digital. Donc là, on vient clairement s'inscrire à la fois dans le mentorat de projet, mais aussi dans l'apport comme des freelances sur des parties plus opérationnelles pour les accompagner et les aider sur cette partie-là. En général, moi, j'inclus aussi beaucoup de modules de formation parce que je considère qu'en tant que porteur de projet, eux-mêmes doivent quand même se sensibiliser et s'acculturer aux outils digitaux et donc apprendre et pas faire que déléguer comme verrait un prestataire et on cherche pas trop à comprendre. Donc, premier profil, des compétences plutôt techniques et peu de connaissances du marché et marketing digital. Je fais un peu des raccourcis. Et puis, un autre profil, je l'évoquais un peu tout à l'heure, de marketeurs qui ont des beaux parcours, mais qui ont clairement besoin d'un effet miroir et de garder le cap. C'est vraiment là un besoin assez clairement défini, c'est-à-dire que en général, ils sont plutôt au point sur les insights marché, sur le principe du MVP, enfin sur grosso modo hein, les méthodes agiles ou startup. Par contre, ils aiment bien confronter, en fait, toujours l'idée de pouvoir le faire à plusieurs plutôt.
Pouvoir se frotter un peu à la réalité, avoir du ping-pong. Tu peux nous parler un petit peu des grandes méthodes. Alors, on a bien compris qu'il y avait une personnalisation en fonction des problématiques, mais globalement, les grandes méthodes ou les grandes étapes avec lesquelles vous procédez pour aider ces entrepreneurs à innover mieux.
Oui, alors, bon, nous, on va dire que la plupart des partenaires, alors j'aime bien parler de partenaires plutôt que de clients, parce qu'encore une fois, on dit qu'on enfin, on accompagne et on est main dans la main dans l'aventure. Ces partenaires sont souvent plutôt en phase d'antécréation. Donc, y a une idée. En général, c'est encore le stade de très, très jeune de l'idée. Donc, on vient s'inscrire pour les aider à faire en sorte que cette idée devienne un véritable projet et un projet qui soit pérenne, qui dépasse clairement et qui essaye de défier les statistiques, tu sais, des aventures entrepreneuriales dont la moitié en fait périclite au bout de 3 ans. Donc on essaye évidemment de passer ce cap-là. Dans ce cadre-là, je te parlais tout à l'heure du parcours 8 étapes, hein, modélisé, 8 étapes, alors de manière à dire assez linéaire dans un premier temps, mais inspirée de méthodes agiles. On va fonctionner les unes après les autres, tu vois, sur des principes d'itération. On valide des socles, on passe à l'étape suivante, tirer forcément d'outils et de méthodes que vous connaissez du business model ou business plan, mais qu'on a revisité, revu par expérience. Et bon, pour la petite histoire, si tu veux, on en parlera, mais là, en ce moment, je suis en train de remettre à plat aussi des méthodologies liées au business model, mais pour inclure de la circularité. Et voilà, on s'agite aussi, nous, tout seuls.
C'est bien, ça, de s'auto-agiter. Ouais. Les 8 étapes dont tu nous parles, là, est-ce que tu pourrais nous donner un peu gourmandise en synthèse, c'est quoi les 8 grandes étapes partent avec des choses dans nos boîtes, là. Vas-y.
Oui, alors les 8 étapes, donc la première de l'idée au projet, donc là, on passe par une étape de questionnaire stratégique pour connaître un peu la posture et tous les éléments assez macro hein, du projet. Ça permet d'interroger énormément le porteur de projet, évidemment, sur son propre projet, mais aussi sur lui, sur ses revenus, finalement, sa posture, l'engagement plus personnel qu'il va pouvoir apporter. On a une deuxième phase, là, on va s'intéresser plutôt à l'extérieur, au marché, les opportunités, les menaces, forces, faiblesses. On vient commencer à parler, évidemment, du business model et on a un workshop de proposition de valeur. Une troisième étape où là, on va plutôt chercher à valider tous les éléments du marketing mix, en tout cas à les identifier et à les poser. Quatrième étape, c'est la faisabilité financière. On a une espèce d'étape fatidique, le go-no-go. Et là, justement, et très clairement, on fait l'itération, on fait ce fameux MVP ou proof of concept pour valider les éléments principaux. Ça marche pas, on revient dessus. Et puis, à partir de 6-7, on est vraiment plus sur de l'opérationnel. Et là, c'est de l'accompagnement à la mise en œuvre et au lancement, la stratégie go-to-market, la communication digitale. Et puis, le 8, l'étape 8, en fait, est un process au long cours. Pour nous, c'est un moyen aussi de garder contact avec ses porteurs de projet, de ne pas se laver les mains, entre guillemets, à partir de lancer, mais de le suivre quelques mois après le lancement. S'assurer que les indicateurs sont bien au vert, si c'est pas le cas, d'amener des sources d'amélioration ou de discuter d'accélération. En fait, voilà, moi, par expérience, j'ai toujours, vécu des projets où on vient vraiment travailler le centre, le cœur, mais en général, on passe très rapidement aux phases très amont et aussi très rapidement aux phases aval. On félicite à peine on fait pas trop le retour en arrière ou le coup d'œil dans le rétroviseur. Donc, c'est ces aspects-là qu'on vient vraiment accentuer pour faire en sorte que sur ce parcours entrepreneur, on puisse verrouiller un peu tous les éléments.
très très clair sur ces 8 étapes, merci beaucoup. Alors, on va parler un peu de pognon, de brousouf, de caillasse. Laura te demande, le business model que vous avez avec ces entrepreneurs, et on a compris que c'était au tout début, presque dans les phases d'idéation, c'est de la prise de part, ce sont des honoraires, c'est une autre façon de faire, comment vous y prenez ?
Très concrètement, et je l'évoquais tout à l'heure, il y a différents moyens évidemment de s'assurer notre modèle économique. Le fait d'être ultra connecté avec l'écosystème en place nous permet, alors c'est un exemple, de pouvoir aider l'entrepreneur qui effectivement en phase d'intégration n'a pas beaucoup de moyens. Par contre, étant maillé avec ce fameux écosystème, il existe des dispositifs d'aide justement, et clairement le parcours InnovaFlow peut rentrer dans ce dispositif d'aide. Alors, sans trop de secrets, il en existe un pour la région Auvergne-Rhône-Alpes qui s'appelle le Startup & Go Emergent. Ça fait partie des dispositifs auxquels on peut s'inscrire pour aider l'entrepreneur. Et puis, moi, j'ai un exemple très concret. Le premier, d'ailleurs, qui a fait le parcours complet était quelqu'un déjà hébergé dans un incubateur à Annecy. Il a utilisé aussi son enveloppe et on est venu en complémentarité évidemment positif existant, sachant que souvent ce sont des chargés de mission qui ont quand même un certain nombre de projets à suivre avec des équipes de bénévoles, mais disponibilité quand même qui reste forcément un peu restreinte, et je suis placée pour le savoir parce que je fais partie aussi des consultants bénévoles dans des incubateurs, c'est partie de ma petite participation à la dynamique locale et entrepreneuriale.
Et dernière question, parce que cet épisode du podcast touche malheureusement à sa fin. On se projette dans, 5 ans, dans tes rêves les plus fous. InnovaFlow, c'est devenu quoi?
C'est des grandes questions que je me pose surtout récemment. Je t'avoue que j'ai deux directions, et une privilégiée. S'il y a des commentaires, je serais heureuse de pouvoir échanger après coup ou des avis à partager. Le premier était de dire, fait grossir un peu la structure et on va plus loin dans l'accompagnement. Pourquoi pas dupliquer et structurer encore une fois à la fois en nombre d'agitateurs et potentiellement porter le concept un peu plus loin. Bon, moi, je me pose énormément de questions sur à la fois l'utilité évidemment sociétale de chacune des organisations et la mienne y compris. D'ailleurs, j'agite et je m'agite aussi beaucoup, surtout dans un contexte qu'on connaît aujourd'hui environnemental. Aujourd'hui, le concept, il est autour du mentorat de projet avec une structure agile d'agitateurs, et j'aimerais bien garder cette idée d'agilité. D'autant plus que elle est assez compatible avec l'idée d'une structure plus écologique. Il y a Vincent qui avait fait un retour la semaine dernière sur des interventions qui s'interrogeaient sur le fait d'avoir des organisations qui coûtent écologiquement à partir du moment où tu as des bureaux, tu as des collaborateurs qui doivent se déplacer, venir du matériel. Moi, je m'interroge beaucoup sur mon empreinte et moi, mon action par rapport au monde. Alors, c'est des grandes questions. Et finalement, cette structure agile, je trouve qu'elle correspond bien à cette idée de structure écologique et de solliciter suivant les besoins et pas forcément amener à une structure plus importante, si ce n'est de pouvoir soigner mon ego et me dire que j'ai un impact, en tout cas auprès d'entrepreneurs. Je fais confiance aussi à d'autres personnes pour monter des structures.
D'accord, magnifique. Merci beaucoup à toi, Aurélie, d'être passée ce matin. Merci.
Avec grand plaisir. Merci à toi.
C'était super intéressant. Merci. Quant à toi qui nous écoutes et qui a participé pendant ces différents directs, je te donne rendez-vous demain matin. Ouais, comme chaque vendredi, c'est le débrief de la rédac. Si vous avez appris quelque chose dans cet épisode, notez quelque chose pendant cet épisode. Ouais, notez quelque chose pendant les épisodes passés. Venez en parler avec nous, c'est chaque vendredi matin, c'est à 7h30, c'est en direct lors du débrief de la rédac, c'est sur LinkedIn. Demain, je serai accompagné au micro de notre amie Laura Bokobza, membre historique de la rédac room. Et puis, tiens Aurélie, je te donne rendez-vous demain si tu veux passer pour le débrief aussi, parce que les invités peuvent venir dans les commentaires et ça, c'est juste magique. Et puis, on aura, en avance de phase, c'est un épisode qui devrait t'intéresser. En tout début de semaine, lundi, on aura comme invité Benoît Raphaël sur un thème incroyable, comment on peut piloter son entreprise de l'autre bout du monde. Et ça devrait t'interpeller par rapport à ce que tu viens de nous dire. D'ici là, portez-vous bien, mes amis. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain matin, 7h30, pour cet épisode. Et d'ici là, surtout, ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao.